3, 2, 1. Ils sont partis.
Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
Good morning, Vietnam!
So, back to it.
Cours, Forrest, cours!
You know nothing, Jon Snow.
Programme double, un podcast d'environ une heure dans lequel je vous présente deux œuvres cinématographiques ou télévisuelles ayant comme point commun une thématique, un acteur, un réalisateur ou faisant tout simplement partie de la même franchise. Le but de ce podcast est de vous informer sur l'historique de la production de ces œuvres tout en analysant leurs forces et leurs faiblesses, le tout enrobé d'une sauce très rétro placée dans une ambiance style cinépark. Le poids lourd est un véhicule routier de plus de 3,5 tonnes affecté au transport de marchandises, d'animaux, de matériaux ou de personnes, dont les origines remontent en 1769. C'est durant cette année qu'un ingénieur du nom de Nicolas-Joseph Cugnot aura la brillante idée de créer un chariot afin de transporter des fardeaux, ce qui deviendra alors le tout premier prototype de camion, connu alors sous le nom de fardier. Cette nouvelle invention permettra alors de transporter de petites quantités de marchandises à petite vitesse sur de très longues distances. Puis, ce sera en 1895 que Carl Benz fera la conception du tout premier camion de l'histoire qui fonctionnera à l'aide d'un moteur à combustion interne. Ce sera alors le 12 mars de cette même année que certains des camions de Benz seront modifiés pour la compagnie Netfanner afin de devenir ce qui sera considéré comme le tout premier autobus à moteur à combustion. Un an plus tard, soit en 1896, Gottlieb Daimler construira un autre type de camion qui fonctionnera avec un moteur à combustion interne, ce qui sera suivi par d'autres entreprises telles que Peugeot, Renault et Busing, qui construiront également leur propre version. Il faudra attendre cependant en 1899 afin de voir le premier camion à être construit aux États-Unis et ce par la compagnie Autocar avec des moteurs optionnels de 5 ou 8 chevaux. En 1904, plus de 700 poids lourds seront construits aux États-Unis, 1000 en 1907, puis 6000 en 1910 et finalement plus de 25 000 en 1914. Après la Première Guerre mondiale, plusieurs avancées seront faites, les pneus devenant alors en caoutchouc, les démarreurs électriques ainsi que les freins électriques faisant leur apparition, les moteurs à 4, 6 et 8 cylindres étant créés, les cabines de pilotage devenant fermées et finalement l'avènement de l'éclairage électrique. Ce sera également durant cette période qu'apparaîtront les premiers camions semi-remorques modernes, suivis au fil du temps par la création des transmissions, des suspensions, ainsi que plein d'autres technologies qui permettront de moderniser et ainsi développer le marché du poids lourd. Cependant, ce métier ne peut exister sans celui du transporteur. Un travail difficile et exigeant où le chauffeur ne doit pas seulement conduire son véhicule sur de longues distances en un temps restreint, mais doit également s'assurer que son véhicule soit correctement équipé et entretenu. Avec le temps, la sécurité devient rapidement un mot d'ordre pour les transporteurs, tout particulièrement ceux transportant des matières dangereuses ou sensibles, forçant ces derniers à obtenir des permis spéciaux afin de piloter ce type de véhicule. Et ce sont ces derniers qui nous intéresseront dans cette édition spéciale Road Movie de Programme Double, où je vous parlerai de deux films dont ces chauffeurs de camions seront soit protagonistes ou antagonistes de l'histoire. D'un côté, nous suivrons les aventures de Pat Quid, ce camionneur aux prises avec un meurtrier en série, dans le suspense australien Road Games. Puis, nous suivrons cet automobiliste solitaire, terrorisé par le chauffeur fou d'un énorme camion-citerne sur les routes perdues de la Californie dans un duel dont un seul survivra. Donc, démarrez votre camion, ajustez vos rétroviseurs et préparez-vous à vivre intrigue, suspense et terreur dans ce programme double des plus angoissants qui changera à jamais votre vision de la promenade routière et de ses poids lourds qui partagent votre route.
It's our pleasure to welcome you to your friendly drive-in theater. For the information of those who are attending the drive-in for the first time, the following hints will make you feel at home and add to your enjoyment. Firstly, if you've not already done so, remove the speaker from the stand and place it in your car. Secondly, adjust the volume control to suit your requirements. Right for loud, left for soft. We must issue this warning. No attempt should be made to disconnect the speaker. To do so, we'll immediately register a red light in our control room. Our ultra-modern snack bar is now open and ready to serve you. How about fresh fillets of fish with chips and salad? Tender steak with eggs, chips, and salad. A big cup of hot chips or fish and chips. Thick, crunchy hamburger. Giant-sized hot dogs laced with sauce or mustard. Banana fritters with rich, full cream. Steaming hot coffee. Icy orange or lemon drink. Smooth, creamy ice cream. And a great range of sweets and chocolates. Our snack bar is open for service. One final word. Before leaving, replace the speaker on its stand. Then drive forward and move to your left. You must never reverse out of your position. Thanks, everyone. We trust you have a very pleasant evening.
No, that's not big enough. No, that's not big enough either. That's more like it. We're delighted to have you with us, and we extend a cordial welcome to you. We've lined up the top stars from Hollywood and from all over the world to entertain you on our giant screen with the new, colorful motion pictures you've been hearing about and reading about. To add to your enjoyment, we're all wound up to bowl you over at intermission time with live wire service at our snack bar, where you'll find a tempting variety of favorite foods and beverages. Your continued patronage is very, very welcome.
Sneaking out to the drive-in? Why not take the kiddies along and save the expense of a sitter? Everyone enjoys the drive-in.
Attention, please. A $50 reward will be paid for information leading to the arrest and conviction of anyone caught stealing our speakers. If you accidentally pull a speaker loose, don't worry. Just turn it in. There is no charge, and we'll appreciate it.
Settle back now, content, comfortable, well-fed, and ready for some fine entertainment. Is everybody happy? Then let's go! It's showtime!
And now, on with the show!
Road Games.
What the hell?
The truck driver plays games. The hitchhiker plays games.
Aren't you kind of young to be hitchhiking out here all by yourself?
Aren't you kind of old to be picking me up?
And a killer is playing the deadliest game of all.
Oh, he's just killed a girl.
Did he make love to her first?
I don't know. What's the difference?
It makes a lot of difference. I think in order to play the game properly, we have to know what he thinks of women.
Stacy Keach is Quid.
No, no, it's Q-U-I-D. D is in death to young girls, you cretin.
Jamie Lee Curtis is Hitch.
Attic and camera.
Now you're looking for a little adventure.
I could go to Disneyland for a little adventure. What I'm looking for is a little excitement.
Road Games. Across 1,600 miles of desert highway, they're playing games of violence and sudden death. Games.
It's my game.
Okay, Sherlock.
If someone doesn't stop soon, there won't be anyone left alive to play. Road Games.
Road Games, ou Déviation mortelle, est un drame qui a été distribué en salle par les studios AFCO Embassy Pictures le 26 juin 1981. Ce film australien d'une durée de 101 minutes a coûté 1,1 million de dollars à produire, mais n'a amassé que 306 000 dollars à travers le monde entier. Au poste de réalisateur, on y retrouve le metteur en scène australien Richard Franklin, lui qui avait mis en scène les films Link, Psycho 2 et Cloak & Dagger. Franklin sera également producteur, lui qui a produit les films australiens Patrick, la version de 1978, ainsi que les films Harry's War et Hotel Sorrento. Au niveau de la scénarisation, eh bien c'est le scénariste américain Everett DeRoche qui lui avait écrit les scénarios de Razorback, Long Weekend, la version de 1978, ainsi que Fortress, la version de 1985. Dans la distribution, on y retrouve Stacy Keach, Jamie Lee Curtis, Marion Edward, Grant Page et Alan Hopgood. Sur les routes australiennes, un chauffeur de camion qui doit effectuer une livraison de viande dans une ville éloignée est intrigué par la conduite étrange d'un automobiliste qui s'avère être un dangereux meurtrier en série. L'idée de Road Games naîtra alors que le réalisateur australien Richard Franklin travaillait sur son deuxième long-métrage en carrière, soit Patrick. Un drame fantastique qui sortira en salle en 1978 et qui, bien qu'il ait été mal reçu au box-office australien, obtiendra un énorme succès au niveau international. Alors surnommé le Alfred Hitchcock australien, Franklin remettra à son scénariste de Patrick, Everett DeRoche, une copie du scénario d'un des classiques réalisés par Hitchcock lui-même, soit Rear Window, qui avait vu le jour en salle en 1954. Après avoir lu le script, DeRoche avancera alors le concept qu'il serait intéressant de voir l'intrigue de Rear Window se dérouler dans un véhicule en mouvement. Motivés par ce concept, les deux hommes débuteront leur travail sur le scénario aux îles Fidji, endroit où Franklin agissait à titre de coproducteur d'un film intitulé The Blue Lagoon. DeRoche écrira alors la toute première version de Road Games sur une période de 8 jours, dans un hôtel en compagnie de Franklin, qui le visitera périodiquement pendant les pauses de la production du drame sentimental qui mettait alors en vedette Brooke Shields et Christopher Atkins. Durant la conception originale, le personnage de Quid fut écrit avec l'idée de confier le rôle principal à l'acteur Sean Connery. Au final, le réalisateur et producteur Richard Franklin s'entendra pour une partie du financement de son prochain projet avec la maison de distribution américaine AFCO Embassy, qui paiera plus de 500 000 $ pour tous les droits en dehors de l'Australie. La Greater Union, l'Australian Film Commission, la Victorian Film Corporation et le Western Australian Film Council compléteront le financement du long-métrage, permettant à Franklin d'amasser un financement de 1,1 million de $ américains, soit plus de 1,7 million de $ en argent australien, le budget le plus élevé jamais enregistré pour un film provenant de ce continent à cette époque. Malheureusement, Cela sera insuffisant pour obtenir le cachet monétaire qui permettrait au producteur-réalisateur d'obtenir les services de l'acteur écossais, forçant le metteur en scène alors à se tourner vers l'acteur Stacy Keach pour le rôle principal. Keach étant un acteur très respecté dans le milieu cinématographique, mais qui n'avait jamais encore atteint le statut de star, ce qui permettait ainsi d'obtenir ses services à l'intérieur du budget disponible. Puis, ce sera l'actrice australienne Lisa Pierce qui sera initialement choisie pour interpréter le personnage de Hitch. Cependant, les distributeurs américains insisteront pour avoir une co-star américaine afin d'assurer un bon retour de leur investissement sur le continent nord-américain, ce qui forcera alors le réalisateur à remplacer son actrice choisie par la comédienne Jamie Lee Curtis qu'il avait rencontrée sur le plateau du tournage de The Fog de John Carpenter. Cependant, cette décision ne sera pas de tout repos puisque l'arrivée de Curtis provoquera de multiples problèmes avec l'Actors Equity lorsque la branche de Melbourne du syndicat approuvera l'importation de Curtis dans le pays, mais que la branche de Sydney s'y opposera. Cette partie de ping-pong politique entre Melbourne et Sydney faillit entraîner la fermeture du projet, mais finalement, une entente sera prise pour la participation de l'actrice sur le film. Malgré cela, Curtis ne se sentira pas vraiment la bienvenue sur le plateau de tournage, devenant alors victime d'une certaine hostilité et de préjugés par les membres de l'équipe de production, et ce, malgré le fait que Franklin et Keach feront de leur mieux pour apaiser les inquiétudes de la comédienne et rendre son séjour plus agréable. Pour le rôle du meurtrier, ce sera Grant Page qui sera choisi, ce dernier occupant en plus le poste de coordinateur des cascades sur la production. Page était un cascadeur australien qui travailla principalement durant les années 1970 et 1980. Ce dernier avait également été coordinateur des cascades des films d'action australiens populaires tels que The Man from Hong Kong, Mad Max, ainsi que d'autres films australiens et étrangers, dont le film d'horreur culte Death Ship en 1980. Juste avant le début du tournage, Stacy Keach apprendra à conduire un semi-remorque à 16 vitesses, et ce, en seulement 2 jours. Durant la production, le comédien conduira lui-même son camion sur plus de 2500 km. De plus, Keach sera responsable du nom de son dingo avec qui il partagera l'écran durant une bonne partie du long-métrage. En effet, dans le scénario original, le nom du chien de son personnage était censé être Bosco. Cependant, lorsque l'acteur dira à son réalisateur que Bosco était en fait une boisson chocolatée en Amérique du Nord, cela fera en sorte que Franklin changera alors le nom du chien pour celui de Boswell. Quant au surnom du personnage de Jamie Lee Curtis, Hitch, ce dernier sera créé par Franklin et DeRoche en hommage au réalisateur Alfred Hitchcock, dont les films furent une grande inspiration ici. Le tournage débutera le 13 mai 1980 dans la plaine de Nullarbor et à Melbourne, en Australie. Ce sera le directeur de la photographie Vincent Monten qui sera chargé de filmer le long-métrage, une première expérience pour l'Australien sur un film de cette importance. Pour la production, Franklin ne disposait que d'un seul camion, ce qui le rendra nerveux durant toute la production car il n'y avait pas de véhicule de rechange en cas de panne majeure, d'accident ou encore pire, si le poids lourd se retrouvait endommagé pour quelque raison que ce soit. Pour Keach, celui-ci sera véritablement épuisé durant la production du film, dû principalement au décalage horaire entre les États-Unis et l'Australie, mais également à cause des longues journées de production derrière son volant. Cela aidera grandement dans son interprétation. Pour la séquence où le personnage de Quid raconte une histoire à Hitch, alors qu'ils se sont arrêtés quelque part sur la route pour camper, celle-ci sera filmée dans une ancienne station télégraphique en ruine, d'Eucla, près de la frontière de l'Australie occidentale. L'histoire contée par Quid était basée sur une véritable histoire survenue sur l'endroit même où il se trouvait pour le tournage, la station desservant autrefois une ville australienne détruite par une épidémie de lapins dans les années 1890. Avec les années, les dunes de sable ont empiété sur la ville qui fut alors abandonnée, mais qui fut reconstruite à environ 4 km au nord de son site existant. À son apogée, cette ville comptait plus de 98 habitants et non 700, comme le citait le personnage de Quid. Pour la séquence finale, Franklin et son équipe avaient scénarisé une scène beaucoup plus longue et beaucoup plus élaborée qui aurait réintroduit tous les personnages secondaires ayant apparu depuis le début du long-métrage. Cependant, la pression pour boucler le tournage et le manque de budget forceront le réalisateur à ne pas filmer la majorité de ses séquences. Le montage ne sera pas de tout repos pour Franklin, qui devra se battre avec les exécutifs de la compagnie de distribution américaine AFCO Embassy, qui désirait que le réalisateur coupe le plan panoramique à 360 degrés de Quid lorsque ce dernier parlait au téléphone dans le relais routier. Ceux-ci trouvaient que le plan était beaucoup trop long et qu'il n'ajoutait rien à l'histoire. Cependant, Franklin refusera au final de couper le plan. De plus, ces mêmes exécutifs voudront que le film ait une conclusion beaucoup plus choquante, forçant alors la production à retourner en tournage afin de filmer la séquence se situant dans une boucherie où une tête coupée tombe dans un seau, au grand désaccord du réalisateur. Au niveau musical, ce sera le compositeur australien Brian May qui sera embauché. May s'inspirera de la musique de The Great Escape d'Elmer Bernstein, ainsi que de la musique de Once Upon a Time in the West d'Ennio Morricone pour la création de sa partition. Son thème principal, axé sur l'harmonica, ainsi que des harmoniques de guitare, permettront au compositeur de réaliser une musique qui soutiendra à merveille la vision du metteur en scène. Malheureusement, Road Game sera une bombe au box-office en Australie lors de sa sortie en juin 1981. Le drame sortira par la suite en salle aux États-Unis en novembre 1981 et n'aura pas non plus le succès escompté. Cet échec sera imputé à une mauvaise commercialisation du produit qui sera vendu comme un slasher film au lieu d'un véritable suspense, les exécutifs de AFCO Embassy cherchant à profiter du succès d'Halloween et de Friday the 13th. Cet échec ne sera pas nécessairement néfaste à la carrière de Franklin, ce dernier décrochant le poste de réalisateur de Psycho 2 en 1983 grâce à ce long métrage. Road Games obtiendra des nominations comme meilleur film international aux Saturn Awards de 1982 ainsi que de multiples nominations aux Australian Film Awards en 1981, dont meilleure actrice dans un second rôle, meilleure photographie, meilleur montage et également meilleure musique pour un long métrage. Un grand regret du réalisateur sera la présence sous-utilisée de l'actrice Jamie Lee Curtis, cette dernière ayant été embauchée trop tard dans la pré-production alors que le scénario était complété, le réalisateur ne possédant pas à ce moment les ressources monétaires ou temporelles pour apporter des changements majeurs à son histoire. Avec le temps, plusieurs des artistes ayant travaillé sur ce film nous ont quittés. Ce sera le cas de l'acteur et cascadeur Grant Page, qui décédera le 14 mars 2024 à l'âge de 85 ans, lorsque la voiture qu'il conduisait heurta violemment un arbre à Kendall, en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. Quant au scénariste Everett DeRoche, ce dernier aura un cancer au cours des trois dernières années de sa vie et décédera de la maladie en 2014, laissant dans le deuil sa femme, ses six filles et plusieurs petits-enfants. Du côté du compositeur Brian May, ce dernier décédera à Melbourne le 25 avril 1997 à l'âge de 62 ans, des suites d'une violente crise cardiaque. Au moment de sa mort, May avait laissé sa collection de manuscrits musicaux à l'Université de technologie de Queensland. Par la suite, ces manuscrits seront retransférés à la Bibliothèque nationale d'Australie, où ils sont encore aujourd'hui conservés. Finalement, le réalisateur australien Richard Franklin prendra sa retraite du cinéma et enseignera à la Swinburne School of Film and Television en Australie jusqu'à sa mort, le 11 juillet 2007, des suites d'un cancer de la prostate, 4 jours seulement avant son 59e anniversaire. Road Games est cité comme l'un des films préférés du réalisateur américain Quentin Tarantino et a également servi d'influence pour la réalisation du premier long-métrage du réalisateur australien Greg McLean, soit Wolf Creek, qui est sorti en salle en 2005. Du côté des points forts, eh bien, Richard Franklin signe ici une œuvre magistrale teintée de suspense et d'humour noir, tout en utilisant des éléments qui sont fort familiers aux amateurs de road movies. De plus, le réalisateur s'amuse avec le cinéphile en trouvant des façons intrigantes, tant visuelles que scénaristiques, de garder l'intérêt de ce dernier tout au long de son film. Road Games prend le temps de bien monter son suspense, le tout soutenu par une très belle musique du compositeur Brian May. La direction photo est également intéressante, le cinéaste nous donnant des plans originaux tout en profitant pleinement du paysage australien. Au niveau de la distribution, Keach est tout simplement parfait dans ce qui est sans aucun doute l'un des meilleurs rôles de sa carrière. Du côté de Jamie Lee Curtis, son charisme remplit l'écran et nous fait regretter sa présence trop courte dans le film. Mais du côté des points faibles, eh bien, Road Games est un suspense et non un slasher, ce qui pourrait ennuyer les amateurs de sensations fortes, le réalisateur nous donnant ici un style très lent qui force le spectateur à bien regarder chacune des images comme il faut, sachant qu'à la fin, chaque petite information donnée dans ce film sera importante dans sa conclusion. L'intrigue paraît également loufoque par moments et devient même pêle-mêle dans la dernière demi-heure. D'ailleurs, cette dernière demi-heure, sauf pour les 10 dernières minutes, est sans contredit le moment faible du film, le scénario sombrant alors dans la confusion et le non-sens total. En effet, notre héros se met à agir de façon totalement irrationnelle, ce dernier se donnant toutes sortes de raisons illogiques afin de ne pas poursuivre sa quête de savoir, soit celui de découvrir les motivations derrière les agissements morbides de son antagoniste. Du côté musical, eh bien, c'est le compositeur australien Brian May qui a travaillé ici sur la trame sonore du film. Lui qui avait réalisé les trames sonores des films Mad Max, Mad Max 2 de Road Warrior, Dr. Giggles et Freddy's Dead de Final Nightmare. Il n'existe aucune trame sonore du film sur le marché. Cependant, si vous allez sur YouTube, il existe ce qu'on appelle le Road Game Suite. Donc, c'est environ une dizaine de minutes de musique que l'on voit à travers le film. Donc, si vous voulez vous donner une petite idée de la trame sonore, eh bien, vous n'avez qu'à vous rendre sur YouTube et vous serez capable, à ce moment-là, d'écouter la musique sublime du compositeur Brian May.
Mr. Projectionist, stop the show. Here's great news you ought to know. We've just got a shipment of taste-thrilled treats, all tip-top quality and delicious eats. There are hot dogs and popcorn and candy galore. There are soft drinks and coffee and a whole lot more. So direct your steps to our refreshment stand to enjoy the finest snacks in all the land. Now, from the maker of America's number one selling compact cars comes a new small car. Valiant Brougham. Economically small for good gas mileage, yet luxurious. With elegant features like richly textured crushed velour seats, deep shag carpeting. Elegantly appointed in the style of a fine European sedan at an American compact price. Valiant Brougham, one of eight great small car buys from Plymouth.
Let's all go to the lobby. Let's all go to the lobby. Let's all go to the lobby to get ourselves a treat.
Delicious things to eat.
The popcorn can't be beat. The sparkling drinks are just dandy. The chocolate bars and the candy. So let's all go to the lobby to get ourselves a treat. Let's all go to the lobby to get ourselves a treat.
Men, there's a drive-in movie full of juicy people. Wow! It's a trap! Help! It's Pick! We've had it, men.
A pleasant aroma for you, but not for mosquitoes. Pick is easy to use. Light it and forget it. Pick's aroma keeps mosquitoes, gnats, and sandflies away. Pick is the best protection for barbecues, fishing and camping trips, or just relaxing in the yard.
So if you don't want our company ever anywhere, just light Pick and see what I mean? Bye!
Pick is on sale at the refreshment stand now.
We're now just 1 minute away from the beginning of our next feature. For your convenience, our refreshment stand will remain open after the feature begins, so you still have time to add to the fun of watching the movie. Be Before we begin our next feature, we'd like to remind you to replace your speaker before leaving the theater. If it is accidentally damaged, please notify someone at the refreshment stand. Again, thank you for coming out to the drive-in tonight. As you leave, please drive carefully and come back soon. We hope you're enjoying your visit here this evening. Now, on with the show. Get more out of life. Go out to a movie.
I'd like to report a truck driver that's been endangering my life.
Un drame qui a été diffusé à la télévision de ABC le 13 novembre 1971 et qui a été distribué en salle par les studios Universal Pictures, soit en 1972 pour le continent nord-américain ou encore à travers l'Europe durant l'année 1973. Ce film américain d'une durée de 74 minutes pour la télévision, mais d'une durée de 90 minutes pour le cinéma, a coûté seulement 450 000 $ à produire et a amassé plus de 6 millions de dollars à travers le monde entier. Au poste de réalisateur, on y retrouve le metteur en scène américain Steven Spielberg, lui qui nous avait donné les films Hook, Jaws et Raiders of the Lost Ark. Du côté de la production, on y retrouve le producteur américain George Heckstein, lui qui avait produit les films When We Were Young et The Keegans. Au niveau de la scénarisation, eh bien c'est le scénariste et écrivain américain Richard Matheson qui s'est occupé ici de l'écriture du film, lui qui avait écrit les scénarios de Incredible Shrinking Man ainsi que de Devil Rides Out. Au niveau de la distribution, on y retrouve le comédien Dennis Weaver dans un rôle presque solitaire et à côté de lui, une multitude d'acteurs qui ont joué des rôles secondaires, dont Kerry Lofton, Jacqueline Scott, Eddie Firestone, Lou Fritzl, Eugene Dinorsky, Lucille Benson, Tim Herbert, Charles Seal, Shirley O'Hara, Amy Douglas, Alexander Lockwood et Dick Whittington. Sur une route de Californie, un automobiliste se retrouve dans une lutte à finir avec le chauffeur d'un énorme camion-citerne aux intentions hostiles. L'écrivain Richard Matheson aura l'inspiration pour son histoire de sa courte nouvelle intitulée « Duel » lorsque ce dernier fut talonné par un camionneur alors qu'il rentrait chez lui après un match de golf à Fillmore, en Californie, le 22 novembre 1963, soit le jour même de l'assassinat du président John F. Kennedy. Ayant publié sa nouvelle dans le numéro de mars 1971 du magazine Playboy, Matheson cherchera à maintes reprises à adapter l'idée de son œuvre sous forme d'épisodes pour diverses séries télévisées. Après plusieurs échecs, il prendra alors la décision de l'écrire plutôt sous forme d'un scénario de film, Scénario, dont les droits seront alors achetés par les exécutifs de Universal Television pour leur émission Movie of the Week, qui était alors diffusée sur la chaîne de télévision ABC, et ce, depuis 1969. Ce sera alors le producteur George Erskine qui sera désigné par les exécutifs de ABC pour produire le téléfilm. Ce sera au même moment que Nona Tyson, l'assistante d'un jeune réalisateur nommé Steven Spielberg, lira la nouvelle et, trouvant que cela serait un projet digne de son patron, remettra le magazine entre les mains du jeune réalisateur qui venait tout juste de décrocher un contrat de 7 ans avec les studios Universal. Spielberg fera alors quelques appels et découvrira que la compagnie pour laquelle il travaillait possédait les droits cinématographiques. Il fera alors pression pour obtenir le poste de réalisateur sur Erskine en présentant à ce dernier la version préliminaire du troisième épisode de la série Columbo, intitulé « Murder by the Book ». Impressionné par le travail de Spielberg, Erskine, qui n'avait pas le pouvoir de l'embaucher, référera alors le jeune réalisateur au directeur de ABC, Barry Diller, qui lui donnera alors le poste tant convoité, impressionné par l'énergie que ce dernier dégageait. Une fois embauché, Spielberg supprimera environ 50 % des dialogues du scénario, ce dernier étant un grand fan de l'ère du cinéma muet. Cependant, les exécutifs forceront le réalisateur à conserver ce qui restait des dialogues afin que cela serve de feuille de route pour le téléspectateur. Une fois le scénario terminé d'être retravaillé, Spielberg embauchera le directeur de la photographie, Jack Marta, afin de mettre en image son long-métrage. Marta, étant reconnu dans le domaine pour son travail sur des films tels que « The Walking Tall » de 1973, « The Trial of Billy Jack » et la série « Hawaii Five-O » qui fut diffusée sur ABC de 1968 jusqu'en 1980. Pour le choix de sa distribution automobile, Spielberg ne se souciait pas vraiment du type de voiture utilisée dans son film, du moment que celle-ci soit rouge, ce qui permettrait au véhicule de se démarquer du paysage monochrome dans les plans larges de l'autoroute du désert. Le véhicule choisi sera finalement un Plymouth Valiant signé 1971. Quatre voitures furent utilisées durant la production, dont l'une sera un modèle plus ancien de 1969 qui sera alors modifié pour ressembler aux autres. La dernière de ces voitures fut un modèle de 1972 qui sera utilisé pour tourner les scènes supplémentaires qui permettront alors au téléfilm d'être présenté en salle en avril 1972. Pour le choix du camion, Spielberg verra plus de 7 modèles différents avant d'arrêter son choix sur le Peterbilt 281 de 1957. Le long capot du véhicule donnant à la cabine de pilotage la forme d'un visage, ce qui ajoutait une personnalité menaçante au poids lourd. Pour rendre le véhicule plus laid et plus mystérieux, l'équipe technique, incluant Spielberg, s'amusera à ajouter de l'huile, de la graisse, de faux insectes morts et d'autres imperfections sur la carrosserie. Un camion de secours, un Peterbilt 281 de 1960, sera reconstruit lorsque le moteur du camion original commencera à poser des problèmes à l'équipe de production durant les répétitions. Finalement, ce camion de secours sera retiré de la production, ne leur laissant qu'un seul camion pour filmer la scène finale du film. Ce camion de secours est d'ailleurs le seul poids lourd à avoir survécu aujourd'hui. Un autre camion sera acheté pour tourner les scènes supplémentaires destinées à la version qui sera présentée en salle en avril 1972, cette fois-ci un Peterbilt 351 de 1962. Pour la manipulation du poids lourd, ce sera le cascadeur de 50 ans, Cary Lofton, qui en sera chargé. Bien qu'il semble que le camion roule à une vitesse dangereuse et imprudente sur les routes sinueuses de la Californie, ce dernier ne dépassera pas vraiment les 50 km/h, la sensation de vitesse accrue étant due à une voiture caméra spécialement conçue pour le film de 1968 Bullet et qui pouvait abaisser la caméra à seulement 6 pouces du sol, créant ainsi l'illusion optique d'une vitesse beaucoup plus rapide. Ce sera le cascadeur Dale Van Siskel qui sera embauché pour conduire le Plymouth du personnage principal. Van Siskel, qui décédera le 25 janvier 1977, était un ancien joueur de football universitaire, de basketball et de baseball, avant de devenir plus tard un acteur de cinéma hollywoodien et cascadeur durant plus d'une quarantaine d'années. Au cours de sa carrière, l'Américain est apparu comme un acteur dans plus de 280 films et épisodes télévisés et a réalisé des cascades à l'écran dans plus de 140 autres, dont The Searchers, North by Northwest et Spartacus. Il sera également membre fondateur et premier président de la Stuntman Association of Motion Pictures. Une fois le choix de sa distribution terminé, il manquait tout de même au jeune réalisateur de 23 ans l'acteur principal de son long métrage. Ce dernier désirait le comédien Dennis Weaver après avoir été impressionné par son travail dans le film Touch of Evil en 1958. Au final, il faudra attendre la veille du début de tournage avant que l'acteur ne signe son contrat, les exécutifs de ABC lui permettant de s'absenter alors pendant plus de 2 semaines des plateaux de tournage de sa série télévisée McCloud. Pour les scènes d'action, celles-ci seront très exigeantes pour le comédien, Weaver étant tout de même un champion d'athlétisme au cours de ses années universitaires, se classant même 6e aux essais olympiques de 1948 au décathlon. Ce sera également Weaver qui pilotera la Plymouth dans le film, sauf pour les séquences les plus dangereuses. Au total, Weaver parcourra plus de 3000 km sur les routes californiennes, et ce, durant toute la durée du tournage. D'ailleurs, ce tournage aura lieu du 13 septembre au 4 octobre 1971. Au lieu du storyboard traditionnel, Spielberg et son équipe réaliseront une immense carte en perspective aérienne de la route empruntée par le véhicule et le camion, dessinant chaque incident spécifique et montrant l'emplacement des différentes caméras. La carte occupait les 4 murs de la chambre d'hôtel de Palmsdale où résidait le metteur en scène. Une grande partie du long métrage sera tournée à l'aide de 6 caméras, dont une caméra montée à l'intérieur de la voiture, ainsi que des caméras montées sur les côtés des 2 véhicules. Dès le départ, Steven Spielberg dut s'affirmer puisque les exécutifs de Universal Television désiraient que ce dernier utilise la rétroprojection pour les scènes situées sur la route et que le film soit entièrement tourné en studio. Cependant, Spielberg insistera fortement pour filmer à l'extérieur devant de véritables décors, ce qui compliquera la vie du réalisateur qui ne possédait que 400 000 $ de budget ainsi qu'un calendrier de tournage de moins de 15 jours, la majorité de sa petite équipe de techniciens n'ayant jamais fait de film auparavant. De plus, jamais un film réalisé pour la télévision n'avait été fait en studio extérieur, la presque totalité des tournages étant réalisée à l'intérieur des studios afin de mieux contrôler l'environnement. Une grande partie du tournage aura lieu dans et autour des communautés de Canyon Country, Aqua Dulce et Acton en Californie. Mais la séquence la plus problématique pour Spielberg demeurera la scène finale où le camion devra dégringoler d'une falaise. En effet, une machine conçue pour maintenir le camion en ligne droite sans conducteur tombera alors en panne, forçant le cascadeur Cary Lofton à piloter le poids lourd jusqu'à la toute dernière seconde, sautant juste avant que le véhicule ne s'écrase en bas de la falaise. Lofton tentera de fermer la porte juste avant de sauter, mais ne réussira pas, expliquant pourquoi cette dernière était grande ouverte lors de la séquence. Étant incapable de reprendre la scène, Spielberg dut garder la séquence qui ne sera réalisée qu'en une seule prise. Cependant, afin d'exclure toute spéculation selon laquelle le conducteur se serait échappé du camion avant l'accident, Spielberg filmera une séquence où l'on pourra apercevoir du sang coulant à l'intérieur de l'épave de la cabine de pilotage. Lors du montage de cette scène, Spielberg aura la surprise de constater qu'une des 6 caméras dont il disposait pour capturer l'action avait réussi à capturer une image continue de la chute entière du camion dans le ravin. Cela deviendra alors le plan emblématique de son long métrage. Mais ce sera au montage que les dirigeants de ABC désiraient que le jeune réalisateur apporte des changements à cette fin qu'ils trouvaient insatisfaisante. En effet, ces derniers désiraient que le camion explose suite à sa chute et insisteront pour refaire le tournage de la chute dramatique afin d'y inclure une explosion spectaculaire. Spielberg refusera au risque d'être renvoyé et ce sera finalement le producteur George Eckstein qui se battra contre ses exécutifs afin qu'aucun changement à la scène ne soit apporté. Lors du montage de cette séquence, Spielberg utilisera le cri de la créature du film de science-fiction de 1954 « Creature from the Black Lagoon » pour le bruit du camion alors qu'il franchissait le bord de la falaise. Anecdote amusante, ce sera exactement le même bruit qui sera utilisé pour la mort du requin dans « Jaws », quelques années plus tard. Ce sera le compositeur américain Billy Goldenberg qui avait déjà réalisé la musique des segments que Spielberg avait mis en scène dans la télésérie Night Gallery, ainsi que pour son épisode de Columbo, Murder by the Book, qui sera choisi pour composer la trame musicale de Duel. Goldenberg devra écrire toute sa partition en moins d'une semaine. Au final, une grande partie de sa musique ne sera pas utilisée pour le téléfilm, Spielberg désirant le moins de musique possible dans son long métrage. Fait cocasse, Goldenberg visitera le plateau de tournage à Soledad Canyon pour se faire une idée de ce qui serait nécessaire au niveau musical. Ce sera à ce moment que Spielberg le fit monter dans le camion-citerne conduit par Carrie Lofton, une expérience qui terrifia le compositeur. Supervisé par la productrice exécutive de la section Movie of the Week de ABC, Lillian Gallo, le montage sera alors réalisé en moins de 10 jours, Spielberg ayant dépassé son horaire de tournage prévu de plus de 3 journées. Duel sera diffusé à la télévision américaine le 13 novembre 1971 et deviendra le 18e téléfilm le mieux coté de l'année avec une cote de visionnement de Nielsen de plus de 20,9, soit une part d'audience de plus de 33% de tout l'auditoire nord-américain écoutant la télévision ce soir-là. Suite à cette diffusion très réussie, les exécutifs de la Universal décideront de sortir le film en salle. Cependant, avec seulement une durée de 74 minutes, cela n'était pas assez long pour la projection au cinéma et Spielberg sera alors approché afin de tourner de nouvelles séquences et ainsi étendre la durée du film à plus de 90 minutes. Après 3 jours de tournage additionnel, Spielberg approchera le scénariste Richard Matheson pour que ce dernier écrive une séquence d'ouverture plus longue en ajoutant la sortie du garage en marche arrière de la voiture, le véhicule traversant Los Angeles et se dirigeant vers le désert, la conversation téléphonique entre le personnage principal et sa femme dans la laverie automatique, la rencontre avec le bus scolaire en panne et la confrontation au passage à niveau entre le poids lourd et notre héros. De plus, certains dialogues en voix off de la version télévisée seront réécrits et réenregistrés, modifiant ainsi le ton de certaines scènes. Les studios Universal Pictures créeront par la suite une campagne promotionnelle complète avec bande-annonces, spots télévisés, publicités imprimées et des affiches cinéma dans l'espoir d'obtenir un succès sur le marché nord-américain, mais surtout en Europe, le film ayant été disponible gratuitement à la télévision sur le continent nord-américain. Malheureusement, le public américain ne se présentera pas au cinéma, forçant ainsi le retrait rapide du long-métrage des salles nord-américaines. Cependant, Duel amassera plusieurs millions de dollars dans plusieurs pays européens en 1973. Avec le temps, ce suspense deviendra un film culte au niveau des cinéphiles. Duel obtiendra le Grand Prix Avoriaz pour le meilleur drame fantastique en 1973, recevra en 1972 le prix du meilleur son pour un long-métrage télévisuel aux Emmy Awards, obtiendra une nomination pour la meilleure direction photo pour un film réalisé pour la télévision durant ce même événement, ainsi qu'une nomination pour le meilleur film réalisé pour la télévision aux Golden Globe Awards de 1972. Cependant, avec le temps, plusieurs personnes ayant été impliquées sur ce projet nous ont quittés. Tout d'abord, l'acteur et cascadeur Dale Van Siskel décédera le 25 janvier 1977 à Newport Beach, en Californie, des suites de blessures subies 2 ans auparavant lors du tournage d'une cascade d'accidents de voiture. Il n'était âgé que de 69 ans. Carrie Lofton, cascadeur professionnel, coordonnateur de cascade et acteur de l'industrie cinématographique américaine, décédera de cause naturelle le 4 mars 1997 à Huntington Beach, en Californie, à l'âge de 83 ans. Lofton sera intronisé à titre posthume au Temple de la renommée de la moto AMA en 2001. Le directeur de la photographie, Jack Marta, décédera le 26 juin 1991 à l'âge de 88 ans à Sheridan, au Montana. Quant au compositeur William Leon Goldenberg, ce dernier décédera à New York le 3 août 2020 à l'âge de 84 ans. Pour George Erskine, cet écrivain et producteur de télévision américain, dont la carrière s'est étendue sur plus de 3 décennies, décédera d'un cancer du poumon à son domicile de Brentwood, à Los Angeles, le 12 septembre 2009, à l'âge de 81 ans. Pour l'écrivain et scénariste Richard Burton Madison, Ce dernier décédera le 23 juin 2013 à son domicile de Calabasas, en Californie, à l'âge de 87 ans, des suites d'une hémorragie cérébrale. Finalement, l'acteur Dennis Weaver décédera d'un cancer de la prostate à son domicile de Ridgway, au Colorado, le 24 février 2006, à l'âge de 81 ans. De nombreux monuments utilisés lors du tournage de Duel existent encore aujourd'hui, notamment le tunnel, le passage à niveau et le fameux Chuck's Café, bâtiment qui se trouve toujours sur la Sierra Highway, mais qui abrite depuis 1986 un restaurant français appelé Le Chêne. Ce café sera réutilisé par le réalisateur Steven Spielberg en 1978 lors du tournage de sa comédie 1941, qui sera alors distribuée en salle un an plus tard. En 2015, une campagne Kickstarter débutera pour financer un documentaire sur la réalisation du film Duel. Le programme devrait s'intituler « The Devil on Wheels » et se devait d'être réalisé à l'époque par Henrik Fogg. Ce projet a reçu l'approbation de la chaîne NBC et de la maison de production DreamWorks et, depuis février 2023, The Devil on Wheels était répertorié comme étant en post-production. Eh bien, du côté des points forts, ce qui, pour plusieurs, pourrait être considéré ici comme le meilleur téléfilm jamais réalisé de toute l'histoire de la télévision nord-américaine, Duel est la preuve qu'il ne faut pas nécessairement beaucoup d'argent pour réaliser un film culte, mais qu'il faut une bonne idée de départ et un talent incroyable pour le réaliser. Steven Spielberg nous donne ici une première mise en scène courageuse qui témoigne d'une excellente technique et de cadrages audacieux et originaux pour l'époque qui sont simples, mais efficaces. La véritable vedette de ce long-métrage est le camion-citerne dont la personnalité menaçante est présentée de façon ingénieuse par le jeune réalisateur. On oublie rapidement le chauffeur inconnu et on accepte même par moments que ce camion pourrait tout simplement être possédé par une force surnaturelle, tout comme la voiture dans le film de 1977, The Car. Spielberg ne perd d'ailleurs pas son temps à mettre en place la confrontation entre le chauffeur de cette petite voiture frêle et son antagonisme massif. Alors que l'on pourrait penser que le sujet pourrait s'essouffler rapidement, le réalisateur réussit à bien ficeler son intrigue, faisant monter la tension et la paranoïa de son personnage principal d'une façon très Hitchcockienne, et ce, jusqu'à la confrontation finale, ne laissant aucune autre possibilité à son protagoniste que d'affronter ses peurs et chercher à vaincre son ennemi. L'interprétation de Dennis Weaver ici est à point, on sent la peur de son personnage et on assiste ici à un véritable exemple des conséquences dramatiques à ce que nous appelons aujourd'hui la rage au volant. Spielberg utilise intelligemment sa bande sonore et sa musique et la confrontation finale demeure enlevante et tout simplement spectaculaire. Mais du côté des points faibles, eh bien, les voitures sont les véritables vedettes ici du film, ce qui fait que lorsque l'on se retrouve dans le café et que notre personnage cherche à découvrir l'identité de son assaillant, Duel perd un peu de sa magie, la voix off n'aidant pas dans ce moment. D'ailleurs, dès que nous quittons la route, le film perd de la vitesse et on a juste hâte de retourner à bord des deux véhicules afin de pouvoir continuer à regarder cette confrontation digne de David et Goliath. Un fait cocasse ici, il est vraiment surprenant de voir qu'aucune voiture de police se trouve sur cette route. Cela aurait pu apporter tout de même une certaine dose de crédibilité si cela serait arrivé. De plus, il est à se demander pourquoi notre héros ne prend tout simplement pas une autre route ou qu'il ne retourne tout simplement pas chez lui à pleine allure, surtout après ce moment où il décide de dormir sur le bord de l'autoroute afin de laisser son assaillant chercher à s'en prendre à quelqu'un d'autre. Du côté musical, eh bien, c'était le compositeur américain Bill Goldenberg qui s'est occupé de la trame sonore du film, lui qui avait réalisé la musique des films The House Possessed, Helter Skelter et Play It Again Sam. Cette trame sonore a été enregistrée sur CD et a été mise sur le marché le 2 mars 2015 sous l'étiquette Instrada. Du côté des cotes artistiques, eh bien, Mediafilm a coté le film Road Game 4. J'y vais également avec une cote 4. Du côté de l'âge et du contenu, la Régie du cinéma a coté le film Road Games 13 ans indicatif. J'y vais avec également une cote 14 ans pour des scènes de violence. Du côté des cotes artistiques pour le film Duel, eh bien, Mediafilm a coté le film 3. Moi, j'y vais avec une cote 2, un film qui a quand même très bien vieilli, malgré quelques longueurs lorsqu'on, comme je disais tantôt, se retrouve à l'extérieur de la route. Du côté de l'âge et du contenu, la régie du cinéma cote le film général. J'y vais également avec une cote pour tous. Cependant, j'y vais quand même avec une certaine prudence au niveau des tout-petits à cause d'un contenu mature, notamment celle de la rage au volant. Au niveau de la disponibilité en DVD et ainsi de suite, eh bien, Road Games est disponible en français, en anglais, que ce soit en DVD et en Blu-ray, alors que pour le film Duel, le film est disponible en français et en anglais dans les formats Blu-ray, DVD ainsi que 4K.
Ladies and gentlemen, our next attraction!
Coming soon to a theater near you.
You haven't experienced the Back to the Future trilogy until you've seen it in a cinema.
Great Scott!
Universal Pictures brings to you...
Hello? Think, McFly?
The most timeless trilogy ever.
I finally invent something that works!
Each film in the groundbreaking franchise on the big screen. Back to the Future.
Where we're going, we don't need roads.
Back to the Future Part 2.
Smile, Doc.
And Back to the Future Part 3. From director Robert Zemeckis and executive producer Steven Spielberg. Back to the Future returns to cinemas this October.
Rock and roll.
Et c'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Si vous désirez en savoir plus sur ce podcast, je vous invite à vous rendre sur la page web de fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, sur laquelle vous verrez apparaître une section podcast dans le haut de la page. En appuyant sur ce lien, il apparaîtra plusieurs sous-sections, dont une associée à Programme Double, endroit où vous trouverez tous les liens reliés à cette émission, soit pour l'application web qui vous permettra d'avoir un accès direct aux précédentes émissions réalisées jusqu'à présent, ainsi que les autres liens, soit pour écouter ou télécharger ces dites émissions. De plus, vous y trouverez une icône pour m'envoyer un email afin de me remettre vos commentaires ou encore des suggestions de longs métrages dont vous aimeriez que je parle à l'émission. C'est à cet endroit que vous y trouverez également les explications aux différentes cotes que je donne aux différents sujets que j'aborde, que ce soit les cotes artistiques ou encore sur le classement au niveau de l'âge de visionnement. Finalement, je vous suggère également de vous abonner à la page Facebook de Programme Double afin de demeurer averti de la diffusion des nouvelles émissions à venir. De plus, il vous est également possible d'écouter mon autre podcast, Fantastica, une émission style radio où je parle avec mon co-animateur des diverses passions qui existent dans notre quotidien et qui est également diffusée une fois ou deux semaines. Je vous remercie donc de votre écoute et on se dit à la prochaine édition de Programme Double.
And now, folks, it's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.
Please remember to replace the speaker on the post when you leave the theater.